VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 2 décembre 2015, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Roch Marc-Christian Caboret, président élu du Burkina Faso, promet un gouvernement d'ouverture. Nous aurons les réactions à Ouagadougou.
Au Nigeria, arrestation du conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, en rapport avec un vaste scandale de corruption sur des contrats d'armement.
Washington prend des sanctions financières contre deux responsables du groupe islamiste nigérian Boko Haram.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, secrétaire national de l'UDPS, annonce son opposition au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila.
En République centrafricaine, nouvelle tension à Bangui après le meurtre d'un jeune musulman au quartier PK5.
Les États-Unis vont intensifier la lutte contre le groupe État islamique en envoyant une unité spécialisée des forces spéciales sur le terrain. Et ne manquez pas la Minute Écho ainsi que les sports, pour l'instant le journal. Au Nigeria, le conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan a été arrêté hier avec d'autres suspects dans un vaste scandale de corruption sur des contrats d'armement. Eric Manirakiza.
Sambo Dasuki, âgé de 60 ans, avait été accusé dans un rapport à la mi-novembre d'avoir conclu des contrats fictifs et fantômes pour un total de 2 milliards de dollars pour l'achat de 4 avions, dont 12 hélicoptères et des munitions. Mais il a nié ces allégations, affirmant que ces contrats avaient été approuvés par l'ancien président Goodluck Jonathan. Monsieur Sambo a été son conseiller à la sécurité de juin 2012 jusqu'à son limogeage à la mi-juillet par le nouveau président Muhammadu Buhari. D'autres anciens responsables ont été également placés derrière les barreaux. Il s'agit de Bashir Yuguda, ancien secrétaire d'État aux finances, Atahiru Bafarawa, ancien gouverneur de l'État du Sokoto, et de l'homme d'affaires Raymond Dokpesi. Ces révélations de malversation ont eu lieu au moment où l'armée nigériane avait un besoin désespéré d'équipements et de munitions pour combattre Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari avait exigé à tous ceux qui sont impliqués dans ce scandale de rendre des comptes.
Washington a annoncé hier l'adoption de sanctions financières contre deux responsables du groupe islamiste Boko Haram. Des détails avec Chérubin Dorsil.
Mohamed Nour, de nationalité nigériane, est accusé par Washington d'avoir été un des organisateurs de l'attentat contre un bâtiment des Nations Unies à Abuja en 2011. Ses éventuels avoirs aux États-Unis seront gelés et il est interdit à toute société ou ressortissant américain de commercer avec lui. Il était considéré comme le numéro 3 du groupe du temps de Mohamed Youssouf en 2009. En 2011, il est devenu un des lieutenants d'Aboubakar Shekau. Les États-Unis ont sanctionné aussi Mostafa Tchad, de nationalité tchadienne, qui aurait mené des attaques au Nigeria. Pour le sous-secrétaire au Trésor en charge de la lutte contre le terrorisme, Boko Haram est une menace pour toute société civilisée. En novembre 2013, les États-Unis avaient déjà placé ce groupe sur la liste noire des organisations terroristes.
Eh bien, de nouvelles vidéos d'un Sud-Africain et d'un Suédois otages au Mali depuis 4 ans ont été fournies par le ravisseur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est ce qu'a indiqué mardi Gift of Givers, l'organisation caritative sud-africaine impliquée dans les négociations. Le Sud-Africain Stephen McGowan et le Suédois Johan Gustafsson ont été kidnappés avec d'autres Occidentaux sur la terrasse de leur hôtel de Tombouctou en novembre 2011. Sur ces deux vidéos d'une minute datées du 20 octobre, les otages apparaissent physiquement en bonne santé et expriment l'espoir d'être bientôt relâchés.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est opposé au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, le secrétaire national de l'UDPS ne reconnaît pas au président Kabila l'initiative de convoquer un dialogue. Pour M. Tshisekedi, c'est à un médiateur international que revient cette charge. Il souligne par ailleurs que son parti politique ne participera pas à un dialogue convoqué par le président Kabila. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'UDPS participera à un dialogue qui se placera sous l'égide de la communauté internationale. Donc un dialogue à la sauce Kabila ne nous intéresse pas et lui le sait d'ailleurs parce que nous avions eu deux rounds de pré-discussion avant le dialogue. Donc il sait très bien que ce dialogue doit se tenir de manière concertée. Il faut que nous nous entendions à la fois sur la date, sur le lieu, sur les thèmes, etc. Or, nous voyons qu'il est en train de diriger tout seul les choses en essayant d'imposer sa vision. Et ça, nous disons non, donc nous ne participerons pas à un dialogue made in Kabila. Il fallait laisser à la communauté internationale, au secrétaire général de l'ONU, de désigner un facilitateur. Nous ne comprenons pas cette précipitation. Elle cache manifestement quelque chose, d'autant plus que dans son discours, M. Kabila a été totalement à faune sur les problèmes qui le concernent, c'est-à-dire la fin de son mandat et l'alternance démocratique.
En Centrafrique, moins de 24 heures après la visite triomphale du pape François et son appel à la réconciliation nationale, un jeune musulman a été tué au quartier PK5, enclave musulmane de Bangui. Félix Yapassi Zembro.
Dans la petite mosquée Ali Babolo, au cœur du quartier PK5, l'arrivée du cadavre d'un jeune musulman a douché l'optimisme des fidèles. Zakaria, 35 ans, était le père de 3 enfants. Il se trouvait devant la mosquée Ibn Khattab lorsque des hommes armés lui ont tiré dessus. Selon plusieurs témoins, les tireurs étaient postés de l'autre côté du canal baptisé Essayez voir, qui sépare l'enclave musulmane des quartiers chrétiens de Bangui. Après ce meurtre, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalainga, s'est rendu en urgence au PK5 pour apporter son soutien aux populations, les appelant à ne pas céder aux provocations des ennemis de la paix. Créant un cycle de représailles, Ibrahim Hassan, porte-parole de la coordination des organisations musulmanes, a appelé sa communauté à ne pas tomber dans le piège. Depuis le mois de septembre, au moins 100 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont intensifier la lutte contre le groupe État islamique en envoyant une unité spécialisée de leurs forces d'élite aux côtés des forces irakiennes et kurdes Peshmerga en Irak et qui pourra intervenir unilatéralement en Syrie. Selon des sources officielles bien informées, sont concernés quelques 200 membres des forces spéciales. Washington avait annoncé en octobre le déploiement d'une cinquantaine d'entre eux. Il faut imaginer l'unité spécialisée prête à agir et capable, quand l'occasion se présente, de mener des raids, libérer des otages, collecter du renseignement et capturer les leaders du groupe et leurs partisans, a dit devant le Congrès le chef du Pentagone. Ash Carter a déclaré « Vous ne savez pas qui va venir la nuit par la fenêtre. Nous voulons que tous les chefs du groupe État islamique et leurs partisans aient cette sensation. »
En Turquie, une explosion près d'une station de métro d'Istanbul a fait hier au moins 5 blessés et perturbé le trafic sur le réseau en pleine heure de pointe. Selon un officiel local, elle a été causée par un engin artisanal dissimulé dans un tuyau et placé au bord de la chaussée sous une passerelle qui enjambait la ligne de métro. Cette explosion n'a pas été revendiquée.
Le président Barack Obama estime que le changement climatique est un impératif économique et sécuritaire auquel il faut s'attaquer dès à présent. Pour M. Obama, si la tendance actuelle n'est pas renversée, nous devrons rapidement consacrer de plus en plus de nos ressources économiques et militaires à l'adaptation au changement climatique et non pas à l'accroissement des opportunités pour nos peuples. Le chef de l'exécutif américain s'adressait hier à la presse en marge du sommet de l'ONU sur le climat au Bourget, près de Paris. L'objectif des participants est d'arriver à des mesures contraignantes pour arriver à moins de 2 degrés de réchauffement. Pour sa part, le président François Hollande a annoncé que la France donnera aux pays africains 2,1 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années pour les aider à développer des sources renouvelables d'énergie.
Le chef de la police de Chicago a été renvoyé à la suite d'une semaine de manifestations liées à la mort d'un adolescent noir tué l'an dernier par un policier blanc en pleine rue. La décision a été annoncée hier par le maire Rahm Emanuel. La confiance du public dans la direction de la police a été secouée et s'est effritée, a déclaré M. Emanuel lors d'une conférence de presse. Les tensions ont été ravivées dans la ville après la diffusion la semaine dernière d'une vidéo montrant le policier Jason Van Dyke abattre en octobre 2014 de 16 balles Laquan McDonald, âgé de 17 ans, alors qu'il marchait au milieu d'une rue.
La Minute Éco avec John Linden.
Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé le 30 novembre le décaissement de 39 millions de droits de tirage spéciaux en faveur du Niger, soit près de 53,7 millions de dollars accordés au titre de la facilité élargie de crédit. Ce programme de soutien, conclu entre Niamey et le FMI en 2012, consiste en un prêt d'une maturité de 10 ans portant sur une période de grâce de 5 ans et demi et un taux d'intérêt de 0% qui peut être révisé tous les 2 ans. Chef Air va ouvrir un restaurant Burger King à Abidjan. Selon le magazine Jeune Afrique, la Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays d'Afrique de l'Ouest à accueillir un restaurant de la chaîne américaine de fast-food. L'arrivée de la chaîne de restauration rapide Burger King à Abidjan a été confirmée ce mardi par Chef Air, la filiale de Catherine d'Air France. Le premier restaurant Burger King de la capitale économique ivoirienne ouvrira ses portes au sein de Place Marquerie, le nouveau centre commercial dont le démarrage est annoncé ce mois-ci. En Côte d'Ivoire toujours, la compagnie Air France KLM veut ériger Abidjan en plateforme régionale capable de transporter d'ici une décennie les passagers dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a annoncé hier Alexandre de Juniac, son PDG, en marge de la célébration du 75e anniversaire de présence d'Air France en Côte d'Ivoire.
Et maintenant les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La CAN des moins de 23 ans se poursuit au Sénégal.
Oui, la deuxième journée de la poule A se déroulait à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor. Dans le duel entre les deux leaders du groupe, le Sénégal et la Tunisie, eh bien, ce sont les Lions de la Teranga qui se sont imposés 2-0 devant leur public. Le Sénégal, ça va vous faire plaisir, est premier du groupe ce matin avec 6 points.
Je vous propose, Nicolas, d'écouter le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Serigne Saliou-Dia.
C'était une petite finale entre nous et la Tunisie. Donc chaque équipe avait sorti une victoire. Donc c'était important pour que ce soit la Tunisie ou nous s'imposer pour assurer un peu la qualification. C'était important de s'imposer. Donc c'est pour cela qu'on s'est rendu à un match très serré, un match très engagé. Moi je pense qu'aujourd'hui on a mieux joué que le premier match. Le premier match, il y avait un peu la pression du premier match, il y avait la peur de perdre, la pression du public. Donc aujourd'hui c'était extrêmement important aussi, nous aussi de montrer ce qu'on sait faire. On a essayé de poser le jeu, on a essayé de contrôler le match de temps en temps. On s'est procuré beaucoup d'engagement. Même si la Tunisie aussi nous a fatigués, surtout en début de deuxième mi-temps, on a senti après le besoin de faire un peu des aménagements sur le plan tactique.
L'Afrique du Sud, quant à elle, s'est relancée en s'offrant une victoire 3-2 contre la Zambie. À suivre ce mercredi dans le groupe B à Hambourg, l'Algérie face au Mali et surtout l'Égypte contre le Nigeria.
Succès précieux de l'Atlético Madrid en Espagne.
Malgré un 11 de départ très rajeuni, l'Atlético Madrid a réussi son entrée en lice en Coupe du Roi en 16e de finale aller en renversant Reus 2-1. Ce modeste club catalan de 3e division avait pourtant ouvert le score à domicile. Les Colchoneros l'emportent 2-1 et peuvent donc aborder plus sereinement le match retour programmé aux alentours du 16 décembre au stade Vicente Calderon.
Suite du scandale du dopage au Kenya.
La Fédération kényane d'athlétisme a nommé l'ancien chef des armées Jackson Tuwei président par intérim en remplacement d'Isaiah Kiplagat, suspendu, vous le savez, par la Fédération internationale d'athlétisme pour des soupçons de corruption. La nomination de Tuwei a été annoncée à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la Fédération kényane. Par ailleurs, l'ancien procureur du Kenya, Sharad Rao, a été désigné par la Fédération internationale pour examiner les charges qui pèsent contre les 3 officiels de la Fédération suspendus. Enfin, Idrissa, comme d'habitude, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Défaite des Cleveland Cavaliers de LeBron James face aux Wizards de Washington, 97-85. Victoire de Philadelphie sur les Lakers de Los Angeles et de Kobe Bryant, 103-91. Brooklyn Nets bat Phoenix, 94-91. Victoire d'Orlando sur Minnesota, 96-93. Memphis, 113. New Orleans, 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le président élu, Roch Marc Christian Kabore, a exprimé la volonté de former un gouvernement d'ouverture. Réaction des Burkinabés avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
Dans ses premières déclarations, le président nouvellement élu du Burkina, Roch Marc Christian Kabore, a laissé entendre qu'il souhaite faire un gouvernement d'ouverture. Nous avons promené notre micro dans les rues de Ouagadougou pour savoir ce que les Burkinabés en pensent.
Mademoiselle Muriel Zunti, et je pense que c'est une bonne chose. Déjà que ça fait combien de temps déjà on n'avait qu'un seul président. Nous, on n'a connu qu'un seul président. Et voilà qu'un nouveau président vient, un gouvernement d'ouverture. Ça permettra quand même à chacun de venir poser sa pierre pour qu'il y ait une bonne fondation déjà, pour que les choses avancent et que le fossé que certains avaient creusé puisse quand même être bouché. Moi, je pense bien que Zéphirin de l'UPC ferait un bon premier ministre parce qu'il a beaucoup de choses à nous donner et on va avancer avec les deux.
Jonas Nguyen, je suis le président du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso. Si le président le veut déjà, nous nous saluons cela. Il faut effectivement rassembler tous les Burkinabés. Il faut féliciter le candidat élu et saluer cette disponibilité d'esprit d'aller vers la réconciliation nationale de tous les Burkinabés qui a été un souci majeur pour nous tous. Et nous pensons que c'est dans cet esprit-là que tous les Burkinabés devraient l'accompagner à réussir sa mission. Et en la matière, comme nous le disons maintenant au Burkina Faso, plus rien ne doit être comme avant. Dans ce sens aussi, il faut comprendre qu'il ne faut pas laisser le chef de l'État ou le gouvernement tout seul. Il faut savoir l'accompagner avec des propositions, avec des critiques constructives.
Enoch Bongongo. Le gouvernement d'ouverture, je pense que c'est tellement exceptionnel qu'on puisse faire la coalition de tout le monde, s'associer et puis travailler, s'unir, c'est une bonne chose, puisqu'on dit que l'union fait la force. Donc c'est bon aussi de travailler ensemble. Le gouvernement d'ouverture, là, je pense que ça ne peut pas tuer les opposants.
Dans Washington Forum cette semaine, Roch Kabore élu dès le premier tour au Burkina Faso. Après une élection historique qui s'est déroulée dans le calme, l'avenir s'annonce-t-il plus apaisé? Grande messe mondiale sur le climat, la France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement. Déclaration et négociation, est-ce suffisant pour garantir l'avenir de notre planète? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Pendant qu'à la conférence de Paris sur le changement climatique, les dirigeants du monde réfléchissent sur l'aide à apporter aux populations des pays des forêts du bassin du Congo, il faut dire qu'au Congo-Brazzaville, les paysans riverains des zones d'exploitation forestière et minière, ou ceux qui habitent dans le voisinage des parcs nationaux, ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie. Ces paysans réclament de plus en plus l'accompagnement de l'État et des organisations internationales qui leur interdisent de chasser et de pêcher dans leurs forêts. En plus, des villages entiers se plaignent du fait qu'ils ne bénéficient pas de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Le reportage de notre correspondant Nguela Ngosu.
Alors que les leaders du monde entier se battent pour réunir 100 milliards d'euros à l'occasion de la COP21 qui se tient actuellement à Paris, au Congo-Brazzaville, les populations boutent la très mauvaise répartition des ressources naturelles. Il s'agit en fait des populations riveraines des zones d'exploitation forestière ou minière. À Bokania, par exemple, à plus de 650 km au nord de Brazzaville, les plaintes des populations ne sont pas prises en compte par la société forestière Wansam, telle que l'exprime ici Adolphe Adiki, chef de village.
Nous, on ne bénéficions de rien. On doit devenir ici. Ils nous ont exploité, la richesse ici, même l'antenne, je vois le MTN là. Pas quelque chose, aucun froid comme ça. Tout ça, nous, on ne bénéficions. Nous, à Bokagne ici, nous sommes comme si, on ne sait pas comment. Parce que quand ils viennent s'installer, ils n'ont pas leur cahier de charge. Pourquoi l'État congolais ne peut pas donner aussi quelque chose de la compagnie? Mais quand ils signent leurs accords avec le gouvernement, pourquoi ils ne voient pas ça? Mais Bokagne, que les viennent exploiter, ils ne voient pas. Maintenant, aujourd'hui, là, si la population de Bokagne s'agite, ils deviennent des agitateurs et on va les prisonner.
Sur les chantiers, les jeunes se plaignent de ne même pas avoir un contrat de travail et vivent de très mauvaises conditions. C'est le cas de ce jeune à l'industrie céramique de Makoua.
Il faut que nous aurions payé les contrats afin que si même on peut me chasser, j'aurai même quelque chose que je peux créer même des compléments à vendre. C'est ça ce que nous demandons. Parce qu'avec les salaires qu'on nous paye les quinzaines, là, si tu as 50 000 par exemple, tu peux tomber avec 25 000. Bon, c'est insuffisant pour nous, mais on fait le travail plus que même 50 000.
Lorsque les patrons des compagnies incriminées ou leurs représentants acceptent de parler, c'est souvent pour rejeter ces plaintes. Dans la forêt de Mvoua, nous avons rencontré René Ngaté, chef de chantier chez Wangsan.
Les travailleurs qui se plaignent, peut-être à moi, c'est quelqu'un qui est venu travailler, qui n'a pas voulu continuer, parce qu'à Paris, c'est tout, il va là-bas pour raconter le mal de la société. Sinon, vous êtes libre de demander, de poser des questions aux travailleurs. Donc, c'est la même réponse que je vous donne là. Le dernier manœuvre que nous appelons la deuxième catégorie, donc la dernière des derniers, il est pointé à 3000 francs. Et d'autres sont à 6000, à 4500, à 5000.
Militants infatigables des droits des communautés dans les forêts de la Cuvette et de la Sanga, Patrick Olebaka appelle à plus d'attention à ces populations.
D'ailleurs, avec Africa Park et avec le parc Odjala qui est à côté de nous. Mais il y a l'influence jusque dans la cuvette. À côté, là, vous voyez des barrages. Mais pour la population, ils ne comprennent pas. Il y a le fleuve qui coule là à côté. Mais on l'interdit d'aller un peu plus loin pour aller faire la pêche parce que là-bas, c'est la zone périphérique du parc, interdit même à la pêche. Quand on fait des choses comme ça, là, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Donc, ils ne négocient pas avec les populations à Mombili-Yengo. Où nous sommes ici, à Tama Plantation, et c'était implanté ici, mais il n'y a pas eu de négociation au préalable avec les propriétaires fonciers de là où est implanté à Tama.
De Wesso à Makoua, en passant par Mokeko et Epéré, les cas d'expropriation sans indemnité financière sont légion et les populations restent mécontentes. De retour de Bokania dans la cuvette, Nguela Ngoussou, La Voix de l'Amérique.
C'était hier, la journée mondiale de lutte contre le sida. L'accent a été mis sur les adolescents de plus en plus vulnérables sur le continent africain. L'ONU-SIDA s'est donc engagé à éliminer l'épidémie de sida d'ici à 2030. Un pari possible, affirme un activiste.
Le sida nous guette et guette la jeunesse, dit Jeanne Gapiya Nyonzima. Cette activiste burundaise qui vit avec le VIH-SIDA depuis 29 ans dénonce la disparité dans le traitement des adolescents, dont le nombre des décès à travers le monde a triplé depuis 2000 selon l'ONU.
C'est pire chez les enfants parce que 9 sur 10 des enfants ne reçoivent pas le traitement alors qu'ils en ont besoin. Et cette injustice envers les enfants, c'est quelque chose qui m'écœure et qui n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer à être égoïste, à traiter que des adultes et à laisser les enfants parce qu'eux, ils ne peuvent pas venir demander et faire le plaidoyer pour eux. C'est inacceptable.
Mani Djelassem, tchadienne de 17 ans, a été infectée à la naissance.
Je suis née des parents séropositifs. Je tombais souvent malade. On m'a dit que j'étais infectée. Et quand j'ai su que j'étais infectée, je savais quoi dire quand j'étais vraiment triste. J'étais toujours enfermée. Les gens me stigmatisaient, quoi. Les gens me disaient n'importe quoi. Et heureusement, j'ai eu accès au traitement. Mais beaucoup d'enfants séropositifs n'ont pas eu cette chance que j'ai eue.
L'autre défi de taille, les mères infectées peinent à donner naissance à bébés non malades, ce qui révolte Jeanne Gapiya Nyonzima.
Nous, les personnes infectées, nous, les mamans qui ont perdu des enfants, comme je le dis, je me bats pour qu'il n'y ait plus une mère qui donne la mort au lieu de donner la vie. Moi, j'ai donné la mort, je n'ai pas donné la vie. J'ai donné la vie, mais j'ai donné aussi la mort. Pourtant, les femmes, nous sommes faites pour donner la vie. Aujourd'hui, ce n'est plus excusable qu'on laisse les mamans, parce que les femmes infectées ont droit de procréer aussi. On les laisse avoir des enfants infectés et qu'elles voient leurs enfants mourir comme j'ai vu mon fils.
En 2014, près de 37 millions de personnes étaient infectées, mais environ 16 millions étaient sous traitement antirétroviraux. L'Afrique reste le continent le plus touché. ONU-SIDA promet d'éliminer l'épidémie d'ici 2030, avec l'objectif de soigner 90% des personnes porteuses du VIH.
En Enfin, au Togo et dans le cadre des 16 jours de campagne contre les violences faites aux femmes, qui se tiennent du 25 novembre au 10 décembre, le groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement a organisé la foire aux droits des femmes. Cette fête foraine a été marquée par des consultations juridiques et médicales gratuites, mais aussi par des conférences sur l'autonomisation de la femme. De Lomé, reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Kofi Aménona, la trentaine, l'air pensif, assis dans un fauteuil, attend son tour pour être reçu par l'équipe des professionnels de justice. Il est venu à la foire des droits de la femme pour soumettre le cas de sa petite sœur coincée dans son village en attente d'être donnée en mariage.
Bon, je suis au GED des juste pour qu'il me trouve une approche de solution pour ma sœur. C'est une fille de 15 ans qui n'a pas été à l'école. C'est le papa qui l'a empêchée d'aller à l'école. Et le papa aussi ne veut pas que l'enfant apprenne un métier. Il m'a dit que la grand-mère n'est pas si forte pour pouvoir s'exercer, donc que l'enfant va rester avec elle pour pouvoir le soutenir. Maintenant, mes recherches, je me rends compte que le papa a gardé l'enfant, que l'enfant se marie dans la famille. C'est-à-dire des mariages forcés, quoi.
Dame Solim, elle vient de sortir de sa consultation. C'est toute soulagée qu'elle s'exprime à nos micros.
J'ai trop d'enfants orphelins à ma charge, 11. Donc je suis venue leur en parler pour voir comment on peut les nourrir ou bien comment on peut les élever parce que seule je n'arrive pas à les encadrer. Je suis soulagée, tellement soulagée parce qu'ils m'ont orientée. Donc d'un jour à l'autre, je vais voir ce vers qui ils m'ont orienter pour voir comment ça peut aller.
Durant les 3 jours de consultation juridique, une centaine de cas ont été soumis aux professionnels de la justice. Akpenedi Donou, magistrate, revient sur un des cas qui l'a particulièrement marqué.
Il y a une fille de 13 ans, en classe de 6e, qui a été violée par son papa. Et quand il le violait, il avait un couteau à côté, il dit « si tu cries, là, je te mets un morceau ». Et actuellement, la fille est en fuite, la maman et la fille sont venues vers nous. Donc, on les a orientées. Il y a la cellule psychologique qui les a pris en charge, médicale aussi. Et après, on passera à la phase judiciaire. Le monsieur là sera interpellé et là, on va suivre la procédure jusqu'à ce qu'il ne soit condamné.
La violence faite aux femmes est une réalité au Togo, nous explique Epiphanie Roumé et Clou Kouévanou, coordinatrice du groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement GFDD, initiateur de la foire aux droits de la femme.
En 2010, l'étude nationale sur les VBG montre que 41% de femmes en union sont victimes de violences physiques, 90% de femmes sont victimes de violences psychologiques et autour de 32% de femmes sont victimes de violences sexuelles. Donc, ce qui montre non seulement la réalité du phénomène, mais aussi son ampleur. Nous devons oser dénoncer pour qu'il y ait sanction des auteurs et que la violence ne se répète pas.
Dénoncer, c'est bien, mais aller jusqu'au bout de la procédure, c'est mieux. Et c'est sur quoi insiste la magistrate Akpene Didonou.
Quand elles viennent, elles s'ouvrent à nous. C'est vrai, on discute. Si à la fin, vous lui expliquez la procédure, elle dit, oh, vous allez enfermer mon mari? Est-ce qu'on ne peut pas faire une procédure? On ne peut pas l'enfermer ou bien on ne peut pas l'inquiéter? On ne peut pas l'envoyer au niveau de la justice? Elle dit, non, il n'y a rien à faire. Mais quand c'est comme ça, généralement, elles ne vont pas au bout. Hein. Rompre le silence, oui, mais aller jusqu'au bout aussi est autre chose. Mais il faut qu'elles soient audacieuses pour aller jusqu'au bout. Donc, je les encourage à le faire.
Notons que dans la boutique du droit à la santé sexuelle et de reproduction, des services comme le dépistage du VIH et le planning familial ont été donnés. Des échanges ont porté sur le cancer du col de l'utérus et sur celui des seins. Les femmes ont été formées à l'autopalpation mammaire. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.